2000, apparu un essai de Susan Buck-Morse, que vous connaissez peut-être, sous le titre « Hegel et Haïti ». La thèse de l'auteur peut être résumée en quelques mots. C'est que Hegel aurait puisé son inspiration dans la révolution haïtienne, cette lutte à mort des esclaves de Saint-Domingue contre leur maître blanc, pour composer sa Phénoménologie de l'esprit, publiée en 1807, c'est-à-dire 3 ans après l'indépendance d'Haïti. Dissimulant cette source, Hegel, je cite, « écrivit son texte à l'encre, invisible de la réalité contemporaine, fin de citation, la réalité de l'auto-émancipation des esclaves des plantations, dans le sillage et dans l'ombre de la Révolution française. » Cela pour mieux en neutraliser, peut-être philosophiquement, les effets subversifs, pour mieux refouler cette même révolution. En guise de preuve, Buck-Morse souligne que Hegel avait suivi le feuilleton des événements de Saint-Domingue relaté dans la revue Minerve, qui informait ses lecteurs de la lutte finale de cette colonie française pour l'indépendance sous la bannière de la liberté ou la mort. Or, la révolution haïtienne avait été la démonstration en acte, je cite, que la liberté ne peut venir d'en haut aux esclaves, ou encore que l'esclave est l'agent de sa propre libération à travers une épreuve par la mort. C'est cette épreuve, soutenue jusqu'au bout par les esclaves haïtiens, que Hegel aurait eu à l'esprit lorsqu'il écrivit, je le cite, que l'individu qui n'a pas mis sa vie en jeu peut certes être reconnu comme personne au sens juridique, c'est, dit Buck-Morse, tout le programme des abolitionnistes, mais, je poursuis la citation de Hegel, il n'est pas parvenu à la vérité de cette reconnaissance comme étant celle d'une conscience de soi autonome. Et Buck-Morse de conclure, je la cite, « au vu de la facilité de la dialectique du maître et de l'esclave à se prêter à une telle lecture, on peut s'étonner que le sujet de Hegel et Haïti ait été si longtemps ignoré. » Alors, sans évoquer le différent qui a opposé à cet égard Buck-Morse à un philosophe capverdien, Pierre-Franklin Tavares, qui en 92 déjà avait signé un article intitulé « Hegel et Haïti ou le silence de Hegel sur Saint-Domingue », on peut faire remarquer que dès 1976, David Bryan Davis concluait le deuxième tome de son Histoire de l'esclavage par un épilogue intitulé « Toussaint l'ouverture et la phénoménologie de l'esprit » qui s'achève sur ces mots, je cite, « Hegel légua ce message que la véritable émancipation de l'homme, qu'elle soit physique ou spirituelle, repose toujours sur ceux qui ont enduré et surmonté des formes d'esclavage. » Comparaison qui a été reprise et une décennie plus tard par le sociologue haïtien Laennec Urbon, qui affirme que bien que, je cite encore, que bien que la phénoménologie de l'esprit ignore Toussaint l'ouverture, l'histoire semble donner raison à Hegel, fin de citation. L'idée est que la thèse hegelienne de l'expérience de la conscience occidentale s'achevant dans l'État ou l'Empire napoléonien se serait jouée en parallèle, en miroir et en quelque sorte en accéléré, sur une autre scène, avec la création de l'État d'Haïti, qui a été vite suivie par le sacre de Jean-Jacques Dessalines, en tant qu'empereur. C'est justement la figure de Dessalines, le leader de la guerre d'indépendance, que Deborah Jensen a récemment invoqué afin de pousser un peu plus loin encore la thèse de Buck-Morse. Jensen souligne en effet que la revue Minerve n'avait pas fait que raconter à la troisième personne les événements de Saint-Domingue. Y avaient également été publiés des textes et des discours de Dessalines lui-même, dont des extraits de son journal de campagne et la déclaration d'indépendance d'Haïti signée de sa main. Dans son acte d'acceptation de sa nomination à la dignité impériale, Dessalines s'exprimait en ces termes. Je le cite, « Citoyen, si quelques considérations justifient à mes yeux le titre auguste que votre confiance me décerne, c'est non l'opinion d'un amas d'esclaves, mais celle d'hommes qui prédilectent leur indépendance. Au préjudice de cette considération, c'est pas forcément facile à comprendre sur le coup cette citation, au préjudice de cette considération, que les puissances n'accordent jamais aux peuples qui, comme nous, sont les artisans de leur propre liberté. » Selon Jensen, cette déclaration, comme d'autres de Dessalines, préfigurait le leitmotiv hegelien d'une liberté qui n'advient jamais sous la forme d'un don, mais qui doit toujours être conquise de haute lutte. C'est pourquoi, dit Jensen, il faudrait se mettre à l'écoute des résonances, dit-elle, proto-hegeliennes des proclamations de Dessalines. Jensen dépeint ainsi un Hegel qui aurait littéralement ventriloqué Dessalines, en sorte que ce qui s'exprimerait sourdement dans la texture de la phénoménologie de l'esprit, ce récit du douloureux enfantement de la modernité européenne ne serait rien d'autre que son obscur envers, la voix de l'esclave noir ayant victorieusement risqué sa vie pour son émancipation. Mais j'ai trouvé surprenant que les lecteurs de Buckmore, y compris ses critiques, n'aient guère remarqué que dans le chapitre « Maîtrise et servitude de la phénoménologie » de Hegel, il n'est nulle part question d'une quelconque lutte de l'esclave contre son maître. La lutte à mort que raconte Hegel, c'est la lutte originelle, la lutte formatrice des figures du maître et de l'esclave, génératrice, lutte qui est génératrice de leur inégalité. On part d'une situation d'égalité pour aboutir à travers la lutte à une situation d'inégalité, certainement pas le contraire. Si dans ce chapitre « Maîtrise et servitude », l'esclave hegelien s'engage déjà sur la voie de son émancipation, c'est seulement à travers son travail servile, sous l'emprise de la peur de la mort que lui inspire le maître. C'est seulement ainsi qu'il commence à conquérir son autonomie, et qu'il accède donc laborieusement à la conscience de soi. Il n'y a ici aucune lutte à mort destructrice de l'esclavage, et quand bien même on considère le rapport maître-esclave comme une sorte d'universel concret qui serait transhistorique, ce n'est qu'en vertu d'un véritable forçage interprétatif qu'on peut réinterpréter les passages consacrés par Hegel à la Révolution française et ses séquelles, la terreur, comme l'abolition définitive de la relation de maîtrise et de servitude qui est en fait exposée plusieurs centaines de pages en amont. Alors aussi novatrice soit-elle, la thèse de Buckmore est en réalité le fruit d'une longue histoire, la longue histoire intellectuelle et politique de l'hegelianisme au XXe siècle, qui a été déterminée par un renversement, ou mieux un dédoublement du stade phénoménologique de la lutte à mort, celle-ci n'étant plus conçue uniquement comme ce qui fait les rapports de maîtrise et de servitude, mais aussi et nécessairement comme, et simultanément comme ce par quoi il faut nécessairement en passer pour défaire ces mêmes rapports. Par là même, c'est non seulement l'idée de la violence émancipatrice qui passait au premier plan, c'est aussi l'idée que cette violence dernière, cette violence ultime dans tous les sens du terme, signe le glas d'une violence première, une violence fondatrice. Autrement dit, la violence de l'opprimé, de l'esclave, était vouée à se définir comme une contre-violence. C'est la formation d'un tel paradigme hegelien, entre guillemets, je vous dirai pourquoi, entre guillemets, de la contre-violence, que je me propose ici de retracer, à rebours, en restituant, sans exhaustif, ça serait très très long, les grandes scansions. Et on va commencer en 1969 à l'Université de Californie, Los Angeles. Angela Davis, 1969, est recrutée en tant qu'enseignante en philosophie. Elle va pas tarder à être congédiée en raison de ses affinités communistes, avant d'être accusée dans l'affaire des frères de Soledad, arrêtée au terme d'une cavale de plusieurs semaines, puis finalement acquittée un peu plus tard. Pour son premier semestre de cours, Davis se propose d'étudier les thèmes philosophiques récurrents dans la littérature noire, en commençant par réexaminer, à la lumière de cette dernière, un concept des plus classiques de la philosophie européenne, le concept de liberté. Et dans ses premières leçons, Davis prend pour objet le célèbre récit autobiographique, publié en 1845, de l'ancien esclave et éminente figure de l'abolitionnisme aux États-Unis, Frederick Douglass. Or, bien qu'il faille attendre la fin de la deuxième leçon pour voir Davis se référer explicitement à la phénoménologie de l'esprit, nul besoin d'être un spécialiste de Hegel pour s'apercevoir que sa lecture, centrée sur les mutations de la conscience de soi de l'esclave et donnant à observer l'inversion progressive du rapport de dépendance entre l'esclave et son maître, cette lecture est profondément marquée par la dialectique hegelienne de la maîtrise et de la servitude. Ce que découvre Davis dans le récit de Douglass, c'est dans ces termes, c'est que la première condition de la liberté est un acte de résistance ouverte, de résistance physique, de résistance violente. Acte de résistance qui ne prouve pas uniquement que l'esclave refuse d'être asservi physiquement, mais aussi qu'il rejette les définitions du maître, l'image que le maître lui renvoie de lui-même. Cela est manifeste dans ce que Davis juge être le passage le plus décisif du récit de Douglass. C'est une scène qui se déroule alors qu'un Douglass déjà récalcitrant a été confié au briseur de nègres, Covey. Covey qui doit le ramener dans le droit chemin en cassant en lui toute forme de conscience et toute forme de désir de la liberté. Douglass subit la violence de Covey jusqu'au jour où, au bord de l'anéantissement, il décide de lui résister. Et je cite ce passage bien connu de l'autobiographie de Douglass. Douglass écrit « À cet instant, d'où me vint le courage, je l'ignore, je résolus de me battre. Et passant à l'action, je saisis Covey à la gorge et me relevai. Ma résistance était tellement inattendue qu'il était pris de court. Il tremblait comme une feuille. Cela me donna de l'assurance et je pris le dessus, faisant couler le sang là où mes doigts le serraient. Ce combat avec M. Covey fut le tournant de ma carrière d'esclave. Il ranima les dernières braises mourantes de liberté et raviva le sentiment de ma dignité d'homme. Il me rendit confiance en moi et m'inspira de nouveau la détermination d'être libre. Fin de citation. Davis, dans ses conférences, s'intéresse d'abord à ce que cette lutte fait au maître lui-même. Covey, souligne-t-elle à juste titre, est certainement assez puissant physiquement pour maîtriser Douglas. Douglas qui n'a alors à cette époque que 16 ans pour le maîtriser dans un corps à corps. Mais Covey se révèle en fait incapable de répondre à la résistance tout à fait inattendue de l'esclave. À ce moment précis, il prend conscience qu'il est dépendant de l'esclave, non seulement pour sa subsistance, mais aussi pour la définition de sa propre identité de maître. Ce qu'il découvre dans la lutte, c'est, je cite Davis, qu'il n'est plus reconnu comme maître et que l'esclave ne se reconnaît lui-même plus comme esclave. Au terme de cette deuxième leçon, Angela Davis annonce que lors de la séance suivante, elle discutera des effets de la lutte du point de vue de l'esclave lui-même. Malheureusement, les Lectures on Liberation de Davis, telles qu'elles ont été publiées en tout cas pour la première fois en 1971 et récemment republiées, s'arrêtent là. Il fait cependant peu de doute que Davis considérait cette scène de lutte à mort de l'esclave contre le maître comme le moment charnière, sinon le stade final du processus de libération de Douglas. Peu de doute, autrement dit, qu'elle concevait la contre-violence de l'esclave, sa riposte à la violence du maître, comme représentant chez Douglas la forme suprême de résistance à l'esclavage. La dialectique maître-esclave se voyait ainsi amputée, mais pour des raisons très compréhensibles, de l'idée centrale chez Hegel de la nature à la fois aliénante et formatrice, et donc libératrice, du travail servile. À ce motif du travail s'en substituait un autre, pourtant absent chez Hegel, je le répète, le motif de la lutte à mort de l'esclave pour son émancipation. Il revient à Paul Gilroy d'avoir, en connaissance de cause ou non, je l'ignore, repris les choses là où les avait laissées Angela Davis. À l'instar de cette dernière, Gilroy, dans l'Atlantique noir, accorde une importance capitale au combat contre Covey et porte une attention spécifique au passage qui suit immédiatement celui que j'ai rapporté précédemment. Douglas dit ensuite « Ce triomphe me procura un plaisir qui compensait pleinement tout ce qui pourrait suivre jusqu'à la mort elle-même. » Je décidai alors que même si je restais encore longtemps un esclave en apparence, le temps était révolu où je serais un esclave dans les faits. Je n'hésitais pas à faire savoir que l'homme blanc qui voudrait réussir à me fouetter devrait aussi réussir à me tuer. Alors pourquoi c'est important ce passage ? Parce que dans le récit hegélien de la maîtrise et de la servitude, l'esclave, au contraire, était celui qui, au cours de la lutte originelle, avait refusé de céder, de soutenir jusqu'au bout le risque de la vie, il était celui qui avait préféré la vie à la liberté de la conscience. Ce faisant, pour cette raison, il s'était, pour Hegel, soumis volontairement à son adversaire, qui était voué par là même à devenir son maître. Mais Douglas nous dirait tout à fait autre chose, et je cite Gilroy, « Pour Douglas, l'esclave préfère l'éventualité de la mort à la perpétuation de la condition inhumaine sur laquelle repose l'esclavage de la plantation. » L'esclave préfère mourir que continuer à vivre une vie d'esclave, c'est-à-dire à survivre. Le récit de Douglas peut ainsi être lu, dans les termes de Gilroy, comme une alternative, comme un supplément, sinon un transcodage, de la dialectique hegélienne du maître et de l'esclave. Alors, depuis les lectures séminales de Davis et Gilroy, les analyses croisées du chapitre « Maîtrise et servitude » de la phénoménologie de l'esprit et du récit de Douglas se sont multipliées de manière plus ou moins heureuse. Ce qui ne laisse pas d'étonner dans ses interprétations, à partir de celle de Gilroy incluse, c'est qu'elle suggère, sans vraiment l'assumer et pour cause, on va voir, que Douglas se serait situé, d'une manière ou d'une autre, par rapport à Hegel, que ce soit avec ou contre lui. Il est pourtant évident qu'au moment où il rédigea la première version de son autobiographie, Douglas n'avait aucune connaissance des écrits de Hegel. Certes, plus tard, sa relation avec la militante féministe et abolitionniste Ottilie Hassing émigrée allemande aux États-Unis, lui offrit un accès privilégié à la culture germanique. En 1871, la même Hassing écrivit une lettre au jeune hegélien Ludwig Feuerbach, dans laquelle, faisant l'éloge de son livre « L'essence du christianisme », elle affirmait que le livre avait provoqué chez Douglas, l'un des hommes les plus célèbres d'Amérique, un renversement complet de son point de vue sur la religion et sur l'Église. À Douglas lui-même, elle déclarait que Feuerbach lui avait permis de rompre les chaînes d'un second esclavage, l'esclavage de Dieu. Mais ce rapport à la pensée d'un hegélien de gauche comme Feuerbach ne rend plus patent le fait qu'il n'est nullement question, ici ou ailleurs chez Hassing, et encore moins chez Douglas, de référer son premier esclavage au sens propre, son esclavage au sens propre, à la philosophie de Hegel. À des passages surtout auxquels personne ne s'intéresse chez Hegel à cette époque-là. Si l'on veut alors saisir ce qui a autorisé l'invention du dialogue posthume entre Douglas et Hegel, il faut remonter encore un peu plus loin dans le temps. Il faut remonter tout d'abord à 1952, année de la publication de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Tout au long du livre, Fanon se confronte à la dialectique hegélienne du maître et de l'esclave et confronte cette dernière à la réalité du racisme colonial, cette confrontation culminant dans le sous-chapitre « Le nègre et Hegel » du septième chapitre. La thèse de Fanon est désormais bien connue. Pour Fanon, le noir, du moins le noir des colonies françaises, des colonies caribéennes en particulier, reste un esclave, fût-ce un esclave sans maître, sinon un maître imaginaire. Il reste un esclave car il n'a jamais risqué sa vie dans une lutte à mort pour la reconnaissance. Il n'y a pas eu de lutte ouverte entre le blanc et le noir, dit Fanon. Un jour, le maître a reconnu sans lutte le nègre esclave. Fanon ne le dit pas explicitement, mais c'est assez évident. Il songe ici à l'abolition de l'esclavage, laquelle, selon lui, n'a conféré au noir qu'une fausse reconnaissance et une conscience de soi troublée pour la simple raison que ce fut une reconnaissance octroyée et non conquise par soi. Je cite encore Fanon, le nègre est un esclave à qui on a permis d'adopter une attitude de maître. Le blanc est un maître qui a permis à ses esclaves de manger à sa table. C'est le blanc qui a pris la décision, je cite encore, d'élever des hommes bêtes, des hommes machines bêtes, au rang suprême d'homme. Ce n'est pas le noir qui s'est élevé de lui-même à l'humanité. Qui se serait historiquement produit avec l'abolition, pour Fanon, c'est un gel du procès dialectique en tant que processus non seulement d'émancipation, mais d'auto-émancipation de l'esclave. Fanon thématise l'antidialectique qui gouverne les rapports blanc-noir en situation post-esclavagiste, du moins dans l'Empire colonial français, puisqu'aux États-Unis, là où le racisme est à son acmé, là où les blancs ne font même pas mine de reconnaître les noirs comme leurs égaux, ces derniers sont engagés dans un véritable processus de libération. Afin de soutenir l'idée de la nécessité absolue d'une lutte à mort contre le maître, Fanon cite en fait les mêmes lignes de la phénoménologie que celles auxquelles se référera Buck-Morse en les extrayant, comme elle et avant elle, du contexte phénoménologique qui est le leur chez Hegel. Le contexte est celui des prémices de la lutte qui constitue et non destitue les figures du maître et de l'esclave. Ce passage que j'ai déjà cité, c'est l'individu qui n'a pas mis sa vie en jeu peut bien être reconnu comme personne, mais il n'a pas atteint la vérité de cette reconnaissance d'une conscience de soi indépendante. L'hypothèse de Buck-Morse, que j'ai exposée pour commencer, repose en fait implicitement sur une lecture fanonienne de Hegel, mais en retournant celle-ci contre elle-même. Car là où Fanon assure qu'il n'y a jamais eu de lutte à mort entre les esclaves et leurs maîtres, Buck-Morse déclare non seulement qu'il y en a eu une, au moins une, grandiose, la révolution haïtienne, mais aussi que celle-ci a fourni à Hegel son inspiration et qu'elle constitue l'archétype de toutes les autres luttes d'esclaves. Alors, dans une première version plus longue de cette présentation, j'avais tâché de dégager trois raisons enchevêtrées de l'étrange occultation chez Fanon de la révolution haïtienne, une mention de Saint-Domingue, mais qui n'a pas grand-chose à voir ici, et je pourrais éventuellement y revenir dans la discussion. Un tel substrat hegelien nourrit encore la célèbre théorie de la violence exposée dans Les damnés de la terre. À bien des égards, la guerre de libération nationale algérienne incarne pour Fanon cette lutte à mort contre le maître que le noir caribéen était encore incapable de livrer. Et ce n'est pas un hasard, de ce point de vue-là, si la violence anticoloniale se définit d'abord, sinon exclusivement pour Fanon, comme contre-violence. Fanon dit ceci, la violence du régime colonial et la contre-violence du colonisé s'équilibrent et se répondent dans une homogénéité réciproque extraordinaire. Le développement de la violence au sein du peuple colonisé sera proportionnel à la violence exercée par le régime colonial contesté. La violence du colonisé n'est ainsi rien d'autre, à ses débuts, que le retournement de l'extrême violence quotidienne du colonialisme, retournement de cette violence contre elle-même. C'est, ajoute Fanon, un ironique retour des choses, on pourrait dire un effet boomerang. Cette lutte à mort est en définitive la condition nécessaire, sinon suffisante, de l'abolition de la violence fondatrice du colonialisme. C'est l'envers de la conquête coloniale, vouée d'ailleurs comme la conquête coloniale elle-même à faire table rase du passé. Dans Peau noire, masque blanc, bref retour, Fanon affirmait qu'à la différence de l'esclave hegelien qui, se perdant dans l'objet, trouve dans le travail la source de sa libération, le noir, désirant être comme le maître, abandonne l'objet et se tourne vers le maître. Mais conscient qu'en contexte esclavagiste et colonial, il était pour le moins problématique d'attribuer une quelconque vertu émancipatrice au travail, Fanon, dans Les damnés de la terre, opère à présent une surprenante identification. Il dit ceci, « Pour le peuple colonisé, cette violence, parce qu'elle constitue son seul travail, revêt des caractères positifs, formateurs. » Il y a là, sans aucun doute, une référence à la fonction formatrice, au sens du terme « Bildung » en allemand, que revêt le travail pour la conscience de soi de l'esclave chez Hegel. Mais pour Fanon, il n'y a plus d'autre travail que le travail de la lutte à mort elle-même. Il n'y a plus d'autre travail que le travail de la violence. Enfin, s'il y a une différence majeure de ce point de vue entre le Fanon de Peau noire, masque blanc et celui des damnés de la terre, elle réside en ceci que le premier, encore fidèle à Hegel, concevait la lutte à mort comme une lutte pour la reconnaissance et partant comme un processus de réconciliation. Il écrit à la fin « J'aperçois déjà un blanc et un nègre qui se donnent la main ». Et ça, ça serait la synthèse dialectique. Tandis que le second Fanon, celui des damnés de la terre, déclare au contraire que l'émancipation du colonisé a pour condition préalable qu'il s'interdise de chercher la reconnaissance du colonisateur, la reconnaissance du maître. Et que là où le colonialisme a appliqué sans relâche la devise « diviser pour régner », les colonisés, esclaves, doivent avant tout apprendre à se reconnaître mutuellement, c'est-à-dire à se reconnaître entre eux. Alors il est certain que l'appropriation fanonienne de Hegel a joué un rôle déterminant dans les relectures ultérieures de la dialectique maître-esclave d'un point de vue antiraciste, et ce jusqu'aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que ce n'est toujours pas Fanon qui a inventé le motif dominant de cette seconde lutte à mort, la lutte de l'esclave pour son émancipation, dont j'ai indiqué plusieurs fois déjà que d'un point de vue exégétique, il était proprement introuvable chez Hegel lui-même. Fanon le considère comme un acquis, il en hérite, mais il en hérite de qui? Pour répondre à cette question, il faut un dernier pas en arrière, et ça sera le dernier, je viens de le dire. L'année charnière, et on va s'éloigner un peu des problématiques anticoloniales et antiracistes, l'année charnière, c'est 1932, c'est l'année de publication des manuscrits 1844, de Marx. Manuscrits 1844, dont le jeune Herbert Marcuse produit dans la foulée une longue analyse. Ce que Marcuse y découvre, c'est une filiation manifeste entre le chapitre « Maîtrise et servitude de la phénoménologie de l'esprit » et la conception marxienne du travail aliéné en régime capitaliste. Autrement dit, filiation entre l'esclave serviteur de Hegel et l'ouvrier travailleur de Marx. Filiation encore entre la dialectique maître-esclave et le concept de lutte des classes qui en serait, en somme, la traduction d'un point de vue marxiste. Cette idée, ça demeure aujourd'hui un topos de la critique philosophique, mais un topos dont Chris Archer s'était forcé de montrer, il y a déjà 35 ans, qu'elle n'était en dernière instance, en tout cas sans doute, rien d'autre qu'un mythe de la marxologie. Mais comme c'est souvent le cas, la vérité en termes d'histoire des idées est ici de peu de poids face à la formidable productivité de cette matrice hegelo-marxiste qui, pendant des décennies, a été une véritable machine à engendrer une variété presque inépuisable de discours de l'oppression et de l'émancipation. Or, il me semble que ce branchement entre Marx et Hegel a largement contribué à l'invention de ce supplément à la dialectique maître-esclave qu'est la lutte à mort de libération de l'esclave. que l'on ne songe qu'à l'anti-During de Engels, bréviaire du marxisme pour toute une génération de communistes, auquel Fanon se réfère encore dans Les damnés de la Terre de manière critique. Si la Gewalt, la violence ou la force, est d'abord celle fondatrice puis conservatrice du pouvoir étatique bourgeois, Engels thématise également le renversement de la violence intérieure de l'État en contre-violence émancipatrice, contre-violence révolutionnaire. Engels dit ces mots célèbres, « La violence joue encore dans l'histoire un autre rôle, un rôle révolutionnaire. Selon les paroles de Marx, elle est l'accoucheuse de toute société qui emporte une nouvelle dans ses flancs. » Et pour la petite histoire, en 1970, Davis, qui avait été l'élève, qui était l'ami de Marcuse, juif émigré aux États-Unis, Davis lui avait adressé une lettre depuis sa prison, lui demandant s'il accepterait de rédiger une préface aux Lectures on Liberation, qui était en cours de publication. Bon, avouant être mal à l'aise à l'idée de discuter un essai portant, je cite Marcuse, sur un monde par rapport auquel il est encore un étranger, un outsider, Marcuse, dans sa réponse, n'en saluait pas moins l'effort de Davis pour traduire le concept philosophique de liberté humaine dans la langue de la lutte du peuple noir et de tous les opprimés. Mais la figure principale de la réinvention, et en fait même de l'invention tout court de la dialectique dite hegelienne du maître et de l'esclave, ce n'est pas Marcuse, c'est un autre philosophe, Alexandre Kojève, qui de 1933 à 1939 a mené à l'école pratique des hautes études un séminaire qui a marqué toute une génération d'intellectuels. C'est Kojève qui, dans une veine crypto-marxiste nourri de philosophie heideggerienne, c'était déjà le cas pour Marcuse, c'est Kojève qui a isolé le récit hegelien de la maîtrise et de la servitude pour reconstituer ce récit en tant que dialectique autonome et surtout pour en faire le principe moteur, l'origine et la fin de toute la procession de l'esprit retracée dans la phénoménologie et identifiée par Kojève à une histoire de l'humanité. Une histoire qui, pour Kojève, débuterait avec la formation du rapport maître-esclave, une histoire qui s'achèverait, thème de la fin de l'histoire, avec l'abolition des rapports de maîtrise et de servitude. Selon Kojève, l'émancipation de l'esclave travailleur implique qu'il fasse sien le principe guerrier du maître, le principe du risque de la vie, et partant le principe du meurtre de l'autre. Le nom de cette synthèse serait chez Hegel le citoyen de l'État napoléonien. Après avoir projeté gratuitement sur les réflexions de Hegel sur la Révolution française la grammaire de la maîtrise et de la servitude, Kojève pouvait facilement démontrer que la dialectique maître-esclave avait pour apothéose une seconde grande lutte à mort qui, destructrice des figures du maître et de l'esclave, n'était rien d'autre que la répétition, par inversion, de la lutte à mort originelle de pur prestige qui avait conduit à leur création. C'est donc Kojève qui, par un véritable tour de force, introduisit, inventa le motif hegelien, entre guillemets, de la contre-violence révolutionnaire. Il convient de préciser ici que pour Kojève, le moment proprement révolutionnaire, ce n'était pas 1789, la monarchie croulante étant morte de mort naturelle. Le moment révolutionnaire, c'était 1793, c'était la terreur. Depuis longtemps, dit Kojève, il n'y avait plus que des esclaves sans maître, en chair et en os. Il n'y avait plus que des esclaves de Dieu ou des esclaves du capital, il n'y avait plus que des bourgeois, riches ou pauvres. Il fallait donc que le bourgeois travailleur, devenu révolutionnaire, crée lui-même, à partir de rien, la situation qui introduit en lui l'élément de la mort. Il fallait donc qu'il mette sa vie en jeu et celle des autres pour rien. Il fallait qu'il fasse couler le sang pour se libérer, sans raison, apparente du moins. Kojève a ces mots, une libération sans lutte sanglante, est métaphysiquement impossible, ou encore c'est la guerre meurtrière qui assure la liberté historique et l'historicité libre de l'homme. Or, si celles et ceux qui hériteront de cette réécriture du récit hegelien de la maîtrise et de la servitude resteront largement indifférents à une telle apologie de la terreur, il n'en reste pas moins que l'attribution par Kojève d'une valeur intrinsèque à la violence révolutionnaire en tant qu'épreuve de la mort, délibérément assumée, en tant non seulement que moyen de transformation sociale, mais aussi en tant qu'opérateur d'une véritable révolution intérieure, cette attribution d'une valeur intrinsèque à la violence révolutionnaire va nourrir toutes les appropriations subséquentes de la dialectique maître-esclave au premier rang, sans doute, celle de Fanon. Alors, il serait trop long de le démontrer ici, et puis c'est un travail en cours. Je suis convaincu qu'il ne faut pas aborder Kojève qui confiait en privé que sa lecture de Hegel était une œuvre de propagande destinée à frapper les esprits. Il ne faut pas le considérer comme un historien de la philosophie, mais comme le créateur d'un mythe au sens strictement anthropologique et politique, un mythe qui a irrigué d'autant plus profondément la pensée critique que ce fut quasi anonymement Kojève s'étant soigneusement attaché à dissimuler la nature même de son intervention et de ses distorsions du texte de Hegel. Kojève était en outre le premier, je crois, à souligner que le rapport hegelien de maîtrise et de servitude ne pouvait se dire que du point de vue situé de l'esclave lui-même, chose qui a beaucoup contribué à l'attrait de sa lecture de Hegel. Car là où la maîtrise se révélait être, dans ces termes, une impasse existentielle, le maître n'avait pas d'histoire, la servitude, elle, s'offrait comme la source de tout devenir, l'histoire humaine n'étant que le long et douloureux processus de libération de l'esclave. Ayant de son aveu même schématisé le contenu de la phénoménologie de l'esprit, Kojève développa une combinatoire de l'oppression et de l'émancipation qui, autorisant des jeux de substitution et de reconfiguration de ces termes et des relations, permettait à chacun et chacune, selon son expérience vécue de l'oppression, de réécrire sa propre variante du mythe, d'endosser la vie de l'esclave hegelien pour repenser les conditions et les formes de sa propre auto-émancipation. C'est dans cette perspective, je crois, qu'il faut réexaminer les multiples appropriations minoritaires, qu'elles soient marxistes, féministes ou antiracistes, qui ont été faites de la dialectique maître-esclave au-delà des quelques noms que j'ai cités dans cette présentation. Il faut analyser ces reprises comme constituant autant de traductions théorico-politiques ou, pour citer Lévi-Strauss, comme autant de variations sur un thème en un sens quasi musical. Car, nous dit le même Lévi-Strauss, un mythe n'est jamais que l'ensemble de ses variantes et des transformations structurales qui autorisent le passage des unes aux autres. Il s'agirait en somme de relancer autrement le programme, et librement, le programme énoncé par Foucault dans les années 60 d'une ethnologie de notre propre culture, une ethnologie de nous-mêmes, mais d'un nous autrement plus indéterminé, car aux frontières sans cesse contestées que le nous occidentaux de Foucault. Alors, j'ai presque fini et j'espère être parvenu dans cette présentation à montrer que le mythème central de la lutte à mort émancipatrice ou de la contre-violence révolutionnaire avait joué un rôle décisif au sein de ces philosophies mineures, de ces appropriations mineures de la philosophie de Hegel. On m'objectera peut-être que mon exposé s'apparente finalement à une tentative de plus pour reconduire des grandes figures de la pensée noire radicale à leurs prétendus pères spirituels occidentaux et pour faire dépendre l'histoire des luttes panafricaines des grands épisodes révolutionnaires européens, parce qu'on a abouti à la Révolution française et la Terreur. Il me semble néanmoins que la perspective anthropologique structurale que je viens d'essayer d'introduire très rapidement, est susceptible, en vertu de l'abandon de toute logique diffusionniste qu'elle implique, de mettre en suspens la pernicieuse question des origines et de la dette intellectuelle, des origines d'une pensée ou d'un motif philosophique et de la dette intellectuelle. Car, nous dit encore Lévi-Strauss dans ses mythologiques, c'est toujours arbitrairement que l'on choisit un mythe ou une de ses variantes. Ici, le mythe de référence a été la version kojévienne de la dialectique maître-esclave. Mais toute autre variante, en l'occurrence celle d'Angela Davis, celle de Fanon ou une autre, pourrait faire l'affaire. Il n'y a pas de version originelle d'un mythe dont les autres découleraient. Tant et si bien, comme l'a fait remarquer Viveros de Castro dans Métaphysique cannibale et dans une toute autre perspective par ailleurs, et même opposée à certains points à la mienne, tant et si bien que tout thème ou que tout texte primitif disparaît. Il n'y a plus au sens propre que des variations, que des processus de traduction réciproque, que des déplacements permanents, sans aucune terre d'élection. C'est pourquoi je crois, et je finis là-dessus, qu'une telle anthropologie de la philosophie se révélerait précieuse pour redessiner une géographie de la pensée qui soit radicalement décentrée, une tâche qui nous incombe encore spécialement en philosophie. Merci.
Merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole aux discutants.